Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bonne journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le 22 janvier, c'est la Saint-Vincent et j'en profite pour vous dire que la fête des vignerons de Bourgogne, la Saint-Vincent tournante, est bien sûr reportée cette année pour raisons sanitaires. Il est exactement 7h31.
7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Bernard Poirette.
Et ce journal est présenté par Augustin Lefebvre. Voici le premier titre, Augustin, à la une ce matin. La crise sanitaire, bien sûr, qui entraîne la suppression des épreuves du baccalauréat prévues au mois de mars.
Annonce du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, hier soir, des épreuves de spécialité pour les élèves de première. Elles sont remplacées par le contrôle continu. Une décision plus ou moins bien accueillie. Le syndicat des chefs d'établissement la qualifie de pragmatique et raisonnable. Le SNALC que demandait lui un report en juin avec les épreuves de terminale. L'Union nationale des lycéens estime que cela a pénalisé les élèves pour deux raisons. Mathieu Devlaminck, secrétaire national de l'UNEL.
Premièrement, parce que cette année, le décrochage scolaire s'est lourdement intensifié. Et de ce fait, on va être pénalisé parce que le bac, il aura la marque de la crise qu'on a traversée. De surcroît, pour nous, un baccalauréat contrôle continu, c'est un baccalauréat inégalitaire parce que ça crée une éducation à deux vitesses. Parce qu'on sait très bien qu'un 15 de moyenne au lycée de Trifouille-les-Oies, c'est pas la même chose qu'un 15 de moyenne au lycée Henri IV. Et on a peur que notre diplôme dépendent de la réputation de notre lycée.
Propos recueillis par Rémi Vallès.
Augustin, le gouvernement a présenté par ailleurs d'autres mesures hier soir pour faire face à ce qu'on appelle le variant britannique du Covid. À partir de dimanche, il faudra un test PCR négatif pour entrer dans l'Hexagone si on vient d'un pays d'Europe.
La règle était valable pour les pays hors Union depuis une semaine. Elle est donc étendue. Elle ne concerne pas les voyages essentiels comme les déplacements des travailleurs frontaliers et des transporteurs routiers. Autre annonce, les gestes barrières doivent être plus strict. La distance de sécurité passe à 2 mètres au lieu d'un et les masques en tissu fabriqués à la maison vont être interdits par décret ce matin. Ils ne sont pas assez filtrants.
De tout cela, bien sûr, nous reparlerons tout à l'heure avec Karine Lacombe et de tout cela est fait pour éviter, bien sûr, un troisième confinement.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, a prévenu hier soir sur TF1 qu'un reconfinement était possible si la situation l'exigeait. Ça dépendra notamment de l'efficacité du couvre-feu à 18h pour tout le monde.
Le ministre qui affirme par ailleurs que la campagne de vaccination, selon lui, se passe bien dans 95% des cas.
Alors que nous sommes engagés dans une course contre le virus, cette campagne connaît pourtant des péripéties. Depuis plusieurs jours, de nombreux maires et médecins dénoncent une pénurie de vaccins. Le laboratoire Pfizer a pris du retard, il fait des travaux dans son usine belge. Résultat, tous les centres de vaccination du Bas-Rhin vont devoir fermer lundi et mardi prochain. Reportage à Strasbourg de Mélina Fachin.
Vous voulez qu'on vous pique à droite, hein, c'est bien ça ?
Christiane, 75 ans, a enfin pu se faire vacciner, mais prendre rendez-vous a été un parcours du combattant.
Ça a bugué. Enfin, moi, j'ai failli balancer mon ordi par la fenêtre, mais non, tout est bien qui finit bien.
Beaucoup n'ont pas eu cette chance, puisqu'en fait, il n'y a pas assez de doses dans ce centre municipal pour vacciner les 2300 personnes prévues chaque semaine, déplore Raoul, infirmier.
C'est une frustration totale, parce qu'on s'est dépêché d'ouvrir, on a bossé toute la semaine pour l'installation de la salle, la mise en place des plannings, tout fonctionne très bien. Et là, on nous arrête, en fait, en plein élan.
Et comme il faut garder suffisamment de doses pour les deuxièmes injections, pas le choix, le centre doit ralentir le rythme et fermer lundi et mardi. Il faut maintenant décaler tous les rendez-vous.
Oui, bonjour. C'est le centre de vaccination.
C'est ça. Pour reporter le rendez-vous.
C'est ça.
Alexandre Feltz est adjoint à la santé à la mairie de Strasbourg.
Les agents ont rappelé toutes les personnes qui avaient rendez-vous lundi, mardi, plus de 600 personnes, pour leur redonner un rendez-vous dans les jours qui suivent. C'est de l'énergie qu'on aurait pu utiliser autrement. On espère que ça ne va pas se reproduire.
Par ailleurs, 4 nouveaux centres de vaccination près de Strasbourg doivent repousser leur ouverture prévue ce lundi.
Reportage en Alsace de Mélina Fachin pour Radio Classique. En plus de son retard de production, le laboratoire Pfizer a annoncé hier qu'il allait livrer moins de flacons que prévu.
Chaque flacon contient en théorie de quoi faire 5 doses de vaccin et un peu plus au cas où. Mais face à l'urgence, l'Agence européenne du médicament a autorisé il y a 2 semaines l'utilisation de ce surplus pour en faire une 6e dose. Or, le contrat passé entre l'entreprise américaine et l'Europe porte sur le nombre de doses et pas sur celui de flacons. Pfizer a donc refait ses calculs et va livrer 20% de flacons en moins à la France en estimant que le nombre de doses reste le même. Problème, cette sixième dose est très compliquée à extraire. Elle demande des manipulations précises, du matériel spécial. Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, dénonce, je cite, un foutage de gueule. Il est très inquiet pour la suite.
On va maintenant être obligé de systématiquement faire cette sixième dose, alors même qu'elle se faisait dans certaines circonstances et avec un certain matériel dont on ne disposait pas, d'ailleurs, dans la plupart des cas. Là, on nous dit, on va nous fournir les bonnes aiguilles, le bon matériel. La question que ça pose, c'est est-ce qu'on dispose de ce matériel ou est-ce qu'il va être acheté maintenant? Parce que s'il va être acheté maintenant, on parle de plusieurs dizaines de millions de seringues avec des aiguilles serties pour qu'il n'y ait pas de volume mort et donc pas de perte. À ce moment-là, si ça n'a pas été acheté, on va se retrouver dans la même situation que celle des masques à mars, avec une concurrence internationale et des difficultés à obtenir les lots de seringues, ce qui nous inquiète fortement.
Le président de l'Union française pour une médecine libre, Jérôme Marty.
Et alors que la crise sanitaire n'en finit plus de peser sur l'économie, voici le retour des mouvements sociaux.
Demain, les salariés du tour opérateur TUI manifesteront à Paris. Ils veulent protester contre des suppressions de postes. Ils ont appelé d'autres secteurs touchés à les rejoindre. Émilie Vallès, est-ce que cela peut être le début d'un mouvement d'ampleur ?
Santé, éducation, énergie, la grogne gagne tous les secteurs. Les mobilisations vont s'enchaîner jusqu'à début février. Pour Lazare Rascala, délégué CGT de TUI France, qui manifestera demain, la température sociale est en train de monter.
Là, on n'est pas sur du frémissement, on est sur du bouillonnement. On a appelé les Cargill, on a appelé les Bridgestone, Auchan, on a appelé Michelin, Total. On sentait qu'il y avait de la colère et de la rage. Hein. Pour beaucoup de ces entreprises, ils avaient reçu de l'aide publique. Et ça n'empêche, ces entreprises faisaient des plans sociaux. Et quand vous regardez les deuxièmes ligne. On leur avait promis une prime Covid qu'ils n'ont pas eu. C'est de l'injustice. Vous voyez, il y a plein d'injustices partout qui se cumulent.
Tous les ingrédients d'une fronde sociale sont là. Précarité grandissante, crise économique et sanitaire sans précédent et défiance vis-à-vis du pouvoir. Mais la période n'est pas forcément propice à la mobilisation, selon l'historien des mouvements sociaux, Sylvain Boulouk.
Quand on est au plus profond d'une crise, c'est pas à ce moment-là que les mouvements sociaux apparaissent. C'est à partir du moment où il y a quelques signes d'amélioration que les mouvements sociaux réémergent. On sait qu'il y a une tension, mais est-ce que cette grogne se cristallisera ou pas? C'est pas du tout sûr que cette colère sourde qui traverse le pays arrive à s'exprimer réellement.
Pour l'instant, conclut cet expert, les mobilisations restent surtout sectorielles.
Émilie Vallès, nous partons en mer pour terminer ce journal. Classement du Vendée Globe, Charlie Dalin toujours en tête du Tour du Monde à la voile. Louis Burton juste derrière, les cinq premiers dans un mouchoir de poche alors que les Sables d'Olonne se rapprochent, moins de 2000 milles. Premières arrivées prévues mercredi prochain. Et juste derrière ce groupe, il y a votre favori, Bernard Jean Lecam, qui est à 300 000 de Charlie Dalin.
Mais à la sixième place, hein, me semble-t-il.
Septième, je crois.
Septième même. Bon, écoutez, c'est formidable quand même hein, ce qu'ils font tous ces gars-là. Merci beaucoup, Augustin Lefebvre. 8h30, vous revenez pour le rappel des titres. Il est 7h38 exactement, à suivre dans un instant les spécialistes de Radio Classique. Emmanuel Faume et le chaudron tunisien, 10 ans après la révolution de Jasmin, Dimitri Pavlenko et le rêve irréalisable d'une...